Bonjour à toutes et à tous. On va commencer malgré l'heure particulièrement matinale. Donc merci d'être présente et présent ici. Nous allons parler de bibliothèque numérique aujourd'hui. En fait, l'ARALD, l'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation, a proposé plusieurs tables rondes sur des propositions aussi de l'ABF. Et donc nous avons proposé cette table ronde autour des ressources numériques et des bibliothèques, et donc sur la question de la valorisation de ces ressources numériques. Donc, je vous parlerai peut-être un petit peu plus de l'ARALD tout à l'heure. Nous accueillons ici deux bibliothèques, qui sont deux bibliothèques de la région Rhône-Alpes. Tout d'abord, à ma droite, la bibliothèque municipale de Grenoble, avec Annie Brigand, donc la directrice adjointe, et à ma gauche, Pierre Guinard, qui est directeur adjoint de la bibliothèque municipale de Lyon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord présenter ces deux bibliothèques numériques avec leurs différentes spécificités. Et ensuite, on va faire différents échanges pour voir un petit peu quels sont les enjeux, les opérations qui existent, les possibilités qui existent autour des valorisations des ressources, que ce soit des ressources patrimoniales ou des ressources numériques acquises ou sur abonnement à l'intérieur de ces bibliothèques. Alors, je regarde mes notes pour vérifier que je n'oublie rien. Donc, je vais laisser tout d'abord Annie Brigand présenter la bibliothèque numérique de Grenoble. Deux petits mots peut-être avant de te laisser la parole. Juste préciser que la bibliothèque numérique de Grenoble est une bibliothèque numérique de référence, qui est donc un label national, et qui est un projet sur ce label de référence qui a été lancé il y a à peu près un an. Mais la bibliothèque de Grenoble est lancée depuis un certain nombre d'années dans des projets de bibliothèque numérique et surtout d'acquisition ou d'abonnement de ressources numériques, notamment autour de la VOD ou d'autres ressources dont tu nous parleras. Enfin, vous excuserez le ton, le tutoiement auprès des deux intervenants avec qui j'ai l'occasion de travailler régulièrement. Je te laisse prendre la parole, Annie.
Bonjour. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide hein, de notre projet de bibliothèque numérique de référence. Vous m'entendez? C'est bon. Donc, comme vient de le dire Antoine, ce projet a été labellisé BNR, Bibliothèque numérique de référence, hein, c'est-à-dire ce dispositif mis en place par le ministère de la Culture pour soutenir une dizaine de chantiers en France de bibliothèque numérique. Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on entend par bibliothèque numérique? Donc, dans notre cas, il ne s'agit pas d'une bibliothèque numérique patrimoniale, parce que effectivement, dans la majorité des cas, quand on évoque des bibliothèques numériques, on pense et on fait référence à des collections de documents patrimoniaux organisés, etc. Typiquement Numélio, hein, dont va parler Pierre Guinard, entre dans cette catégorie. Là, l'ambition est un peu différente, hein, et c'est tout à fait en cohérence avec l'action qu'on a menée effectivement depuis, on va dire, les années 2005, pour développer l'usage du numérique dans nos bibliothèques. L'ambition, c'est une ambition très ambitieuse, hein, c'est de créer, on va dire, l'équivalent d'une médiathèque numérique publique, accessible à distance, avec donc toutes sortes de contenus, hein, d'une médiathèque, hein, donc, et du patrimoine, bien entendu, mais aussi du livre numérique, de la VOD, de la musique, de l'auto-formation, de la presse, etc. Donc, mettre en place un espace virtuel sur lequel l'usager inscrit s'identifie et sur lequel il peut voilà, faire son miel de tous les contenus qu'on met à sa disposition, donc à la fois des contenus et des services d'appropriation de ces contenus. Dans notre chantier de bibliothèque numérique, c'est plus un projet parce que c'est déjà en cours, il y a aussi un volet sur place et je vais m'en expliquer. Donc, effectivement, l'axe principal hein, de ce projet, c'est l'accès distant. C'est un enjeu fort, évidemment, parce que un certain nombre de fournisseurs, surtout dans les années 2000, hein, excluaient l'accès distant et proposaient uniquement des ressources sur place. Pourquoi pour nous particulièrement, pourquoi on a voulu mettre l'accent là-dessus? Ben parce que l'accès sur place ne permet pas de développer les usages comme on le voudrait, particulièrement d'ailleurs dans le cas d'un réseau comme celui de Grenoble, qui est un réseau disséminé sur l'ensemble du territoire, dépourvu de grandes centrales, mais avec des bibliothèques dans chaque quartier. Donc on n'a pas là un public suffisamment important, fréquentant et séjournant dans une grande bibliothèque pour que l'effet du numérique, des services numériques sur place puisse être important en termes d'usage. Et puis d'autre part, évidemment, hein, ça c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister, hein, l'accès distant et l'accès en mobilité, ça fait l'objet d'une forte demande en bibliothèque parce que c'est devenu une pratique massive de notre public et des internautes en général. Mais néanmoins, effectivement, le projet comporte un volet de renforcement des espaces numériques sur place, dans les murs, parce que, et ça rejoint le sujet d'aujourd'hui, hein, il faut rendre visible le numérique, parce qu'en termes d'image aussi, c'est un signe fort, particulièrement par rapport au public jeune, ados et jeunes adultes. Parce que c'est dans les murs que l'on peut lutter contre la fracture numérique, aider les publics qui ne sont pas à l'aise avec le numérique à trouver les voies de s'approprier les contenus qu'on met à disposition. Et puis parce que, aussi, sur place, on peut mettre en avant d'autres types de contenus qu'à distance, et notamment sur les tablettes, des applis, des jeux vidéo, etc. Puisque aujourd'hui, comme vous le savez, on n'a pas le droit de prêter des jeux vidéo. Décidément. Alors, quel type de contenu? Donc, je le disais, hein, a priori, tous les types de contenu qu'on peut trouver dans une bibliothèque, y compris des jeux vidéo qui n'étaient pas présents jusqu'à présent, évidemment, enfin, si, qui étaient présents sur autres supports, mais voilà, des contenus d'une médiathèque, des contenus sous droit et des contenus libres de droit, hein, parce que, évidemment, on pense concernant le domaine public aux documents patrimoniaux, mais sur notre plateforme de VOD, par exemple, on met en ligne des films dont on nous a cédé les droits, dont des réalisateurs locaux ou des institutions locales nous ont cédé les droits. Donc on ajoute des contenus libres de droit. Il ne s'agit pas uniquement d'acquisition payante. Du patrimoine, mais aussi du contemporain, évidemment. Et puis, enjeu très fort, c'est atteindre une masse critique de contenus. Ne pas rester, par exemple, dans le cas du livre numérique, aujourd'hui, on a un projet important, hein, d'expérimentation de PNB, où on compte bien être en mesure, on l'espère, tout au moins si l'offre le permet, de proposer beaucoup de livres numériques, car jusqu'à présent, on proposait une toute petite collection, et tant que la collection reste réduite, tant qu'il n'y a pas de choix, les usages ne décollent pas. Donc des contenus, mais aussi des services, parce que qui dit bibliothèque numérique dit accès unifié, donc un portail. Ça fait partie du projet en 2014, hein, de développer une interface innovante pour accéder à l'ensemble de ces contenus, et puis bien entendu un moteur de recherche avec un entrepôt de données qui agrégera toutes les métadonnées, des recommandations, du conseil, vous connaissez tout ça, des outils d'appropriation du contenu historique de la consultation numérique, panier, etc. Le tout, si possible, fédéré avec ce qui remonte du compte lecteur concernant l'usage des documents physiques. Et puis des outils de partage au sein de la communauté des utilisateurs de la bibliothèque numérique, mais aussi, bien entendu, une articulation avec les réseaux sociaux. Quel public vise-t-on? Évidemment, dans une médiathèque, on vise tous les publics, mais on en cible certains en particulier. Je le disais, je parlais des digital natives, donc les jeunes adultes et les actifs. Et on remarque d'ores et déjà, hein, que leur présence se manifeste, à une petite échelle, mais elle se manifeste. C'est un public sur lequel on a qui a tendance à s'éroder, hein, dans nos statistiques. Donc là, il y a vraiment un enjeu fort. Les personnes en situation d'apprentissage, hein, donc pour ça, évidemment, il y a des choses très intéressantes, notamment en ressources d'auto-formation. Et pourquoi? Parce que, évidemment, c'est un public qui nous tient à cœur, c'est un public avec lequel on travaille beaucoup, hein, notamment dans le cadre de partenariats. Les personnes âgées, les seniors, parce qu'ils sont très demandeurs. Et les personnes handicapées, évidemment, en raison des possibilités couvre aujourd'hui le numérique. Et puis enfin, bien entendu, les enfants et les ados, mais dans une moindre mesure, j'allais dire, parce qu'on n'a pas aujourd'hui beaucoup de contenu intéressant pour le public, notamment des enfants. Mais bien entendu, c'est une préoccupation. Alors, ben pour que ça fonctionne, pour que ça prenne et que les usages se développent, il y a un certain nombre d'impératifs catégoriques. Hein. La simplicité technique en est une, et ce n'est pas une mince affaire. Hein. Donc il faut évidemment une identification unique pour l'ensemble de ces contenus, il faut des outils de lecture standard, une bonne ergonomie, des conditions d'accès et d'usage, et j'aurai certainement l'occasion d'y revenir là après, qui aujourd'hui sont extrêmement hétérogènes et donc il faut les rendre lisibles, compréhensibles par les usagers. Et puis, voilà, je reviens sur ce que je disais précédemment, une masse importante de contenus. Alors concernant les contenus, il y a trois difficultés majeures. Hein. La faiblesse des offres, hein. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on sait que voilà, c'est loin d'être encore satisfaisant aujourd'hui. Hein. Typiquement en matière de livres numériques, hein, l'offre B2B, donc destinée aux collectivités, n'est qu'une sous-partie hein, aujourd'hui de l'offre B2C à destination du public. Donc ça, c'est un sujet de lutte, qui est un enjeu national pour lequel il faut se battre, notamment au sein des associations, bien entendu. Autre difficulté, les offres sont fermées, c'est la logique, bien souvent on est dans une logique verticale avec une plateforme, un contenu, un prestataire, et donc la nécessité pour les usagers de passer de l'un à l'autre et de s'approprier de nouvelles interfaces, de nouveaux modes de fonctionnement, etc. Et puis, des modèles économiques peu satisfaisants, basés soit sur le paiement à l'acte, ce qui est tout à fait incompatible avec la logique de fonctionnement d'une collectivité, puisqu'il n'y a aucune anticipation budgétaire possible, et parce que ça nous met dans une logique d'être de plus en plus dans l'incapacité de faire face financièrement à mesure que l'usage se développe, ce qui est tout de même un paradoxe, puisque c'est bien notre objectif que le numérique devienne utilisé de la façon la plus large possible. Donc derrière ce projet, il y a une ambition. Évidemment, on ne sera pas les seuls à se battre pour cela, mais voilà, l'ambition, c'est de contribuer à poser les bases d'un nouveau modèle économique du numérique en bibliothèque. Quelques chiffres sur fin 2012, peut-être, très rapidement, juste pour que vous ayez une idée de ce que ça représente, parce que quand on parle de numérique, très souvent, on évoque les réalisations en termes qualitatifs et on évite un peu, trop souvent, je trouve, la question statistique, hein, savoir ce que ça pèse, qu'est-ce que ça pèse aujourd'hui, entre guillemets. Fin 2012, on avait 2280 inscrits à la bibliothèque numérique, puisqu'il y a une démarche d'inscription préalable pour accéder, même si c'est gratuit, intégré dans le coût de l'abonnement, une démarche d'inscription préalable pour accéder au contenu de la bibliothèque numérique.
Je te coupe juste pour préciser quelque chose par rapport justement à l'accès aux ressources numériques sur la bibliothèque numérique de Grenoble en ligne. En fait, ça passe par l'activation d'un compte Mon Grenoble, tu me diras si je me trompe, qui permet ensuite d'avoir un accès extrêmement facilité aux ressources et à d'autres services que propose la ville de Grenoble. Oui. C'est juste pour préciser que c'est juste une activation et qu'une fois que c'est fait.
Mais quand je parle d'inscrits à la bibliothèque numérique, c'est effectivement la sous-partie des inscrits Mon Grenoble qui ont une inscription en cours de validité à la bibliothèque. Donc ce sont vraiment des inscrits valides, bibliothèque et actifs. Je vous laisse regarder brièvement les chiffres. Et j'ai évidemment inclus la fréquentation du site qui augmente très régulièrement. Et c'est évident que la bibliothèque numérique a un effet majeur sur la fréquentation du site. Plus les statistiques sur le catalogue qui augmentent également, 200 000 à peu près. Bien entendu, c'est difficile d'avoir un chiffre total juste, puisque l'accès au catalogue peut se faire soit directement, soit via le site. Mais on peut dire que, grosso modo, on a entre 400 et 500 000 fréquentants numériques. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des chiffres comme ça en tête parce que c'est une autre forme de fréquentation hein, qui s'ajoute à la fréquentation de nos équipements. Et c'est un argument fort aussi vis-à-vis des élus pour développer le numérique. Où est-ce que nous en sommes En 2012, nous avons beaucoup acheté de matériel pour nos espaces numériques, hein, des tablettes, des liseuses, etc. Nous allons continuer ces opérations, notamment acheter effectivement des tablettes et des liseuses supplémentaires pour des usages collectifs, hein, des ateliers, des utilisations en club lecture, etc. Nous allons poursuivre l'acquisition de contenu, lancer une campagne de numérisation patrimoniale, mettre en ligne notre nouveau catalogue. On avait un catalogue très, très en retard hein, par rapport à l'état de l'art. Voilà. Donc là, on va installer ce nouveau catalogue là normalement le mois prochain. Et puis, et surtout, donc, gros projet, développer une interface de gestion et de diffusion de livres numériques interfacés avec le hub d'Ilicom. Donc, c'est dans le cadre du projet Prêt numérique en bibliothèque, PNB. Je pourrais revenir là-dessus hein, si vous avez des questions après. Mais en quelques mots, pourquoi construire une plateforme de livres numériques? C'est un enjeu très fort parce qu'on ne peut pas prétendre construire une bibliothèque numérique si on n'a pas une offre intéressante, attractive de livres numériques aujourd'hui. C'est l'objet d'une forte demande et c'est légitime, bien entendu. Donc les objectifs de ce projet, ben, ils sont triples. C'est ne plus être captif d'une seule plateforme, de la plateforme d'un seul fournisseur. C'est la possibilité donc, d'acheter des livres numériques. C'est ce que permet le modèle PNB en provenance de différents distributeurs. Et puis, c'est l'expérimentation voilà, de nouvelles modalités d'accès et d'usage du livre numérique. Donc, nous aurons notre propre interface, de même que nous avons développé une interface de VOD hein, qui est intégrée complètement sur notre site web et sur laquelle nous chargeons les films que nous achetons ou les films dont nous avons les droits. De la même façon, nous allons construire une interface proposant la consultation en ligne ou le prêt de livres numériques et sur laquelle nous serons en mesure de charger des livres du domaine public, par exemple, qui sont en lien avec notre territoire, nos axes de conservation, etc. Donc c'est cette idée de maîtrise hein, de l'outil, de la plateforme, est extrêmement important pour le développement d'une bibliothèque numérique attractive et intéressante en termes de contenu et facilement accessible. Et puis en 2014-2015, le projet, c'est de construire une interface qui va être une surcouche sur l'ensemble de ces briques, hein, de ces briques de contenu que nous allons essayer de rendre la plus ludique, innovante possible, qui sera une façon donc d'unifier, de donner une matérialité, entre guillemets, une matérialité virtuelle, mais néanmoins, à cette bibliothèque numérique, avec évidemment... l'identification unique qui existe déjà, mais que nous allons standardiser avec un CAS. Enfin bon, je vous passe les détails techniques. Et surtout, enjeu extrêmement important en termes de valorisation, un entrepôt de métadonnées. Donc, l'entrepôt de métadonnées, la difficulté est moins technique qu'en termes de récupération des métadonnées, parce que tous les fournisseurs, loin de là, ne sont pas prêts à fournir leurs métadonnées, particulièrement quand il s'agit de bouquets. Donc ça, c'est extrêmement important pour la valorisation. Voilà, création d'une appli mobile, enrichissement de contenu. Je vais m'arrêter là.
Merci, merci Annie. Alors, merci. Alors, je vais laisser la parole à Pierre Guinard de la Bibliothèque municipale de Lyon, pendant que moi, je vais manipuler Numélio. Donc, Pierre, tu vas nous présenter Numélio, alors qui, petite différence pour le moment, en tout cas, avec la Bibliothèque numérique de Grenoble, propose surtout des ressources patrimoniales issues de différentes campagnes de numérisation de longue date. Donc voilà, je vais aller manipuler un peu et je te laisse la parole.
Bonjour. Oui, effectivement, Numélio est une bibliothèque patrimoniale, mais en même temps très jeune, puisqu'elle est ouverte depuis le 12 décembre 2012. Et donc, elle a encore, je dirais, les caractéristiques de la jeunesse et même de l'enfance. Et en même temps, comme le disait Antoine, elle s'appuie sur un passé qui, en termes numériques, c'est la préhistoire, hein, puisque la bibliothèque de Lyon a commencé à numériser des documents dès 1992. Donc Numélio aujourd'hui, c'est à la fois un petit peu le récapitulatif de ce qui a pu être fait depuis presque 20 ans maintenant, et puis c'est le début, hein, simplement, hein, de quelque chose effectivement qui dans les années prochaines va s'étendre. Alors, le but quand même de Numélio, hein, évidemment, c'est d'abord en priorité hein, de présenter les collections de la bibliothèque, hein, qui, comme vous le savez, là, je vais être très bref, mais qui sont parmi les plus importantes collections patrimoniales françaises, hein, puisque au total, la Bibliothèque municipale de Lyon conserve environ 2 millions de documents patrimoniaux, hein, depuis les manuscrits du 5e siècle jusqu'à des documents tout à fait récents. Et donc l'idée, hein, toute simple, est de pouvoir mettre à disposition d'un public le plus large possible des collections qui, même si depuis très longtemps, hein, on cherchait à être valorisé sur place, ont trouvé avec le mode numérique un moyen d'accessibilité évidemment bien plus facile et bien plus aisé. Mais l'idée aussi avec Numélio, hein, c'est de pas simplement présenter hein, des documents, puisqu'après tout, d'autres réservoirs, d'autres bibliothèques numériques existent, hein, et la Bibliothèque de Lyon participe, vous le savez, à Google Books, hein, avec le projet qui a été commencé il y a maintenant 5-6 ans. Mais le but de Numélio, c'est de pouvoir offrir et présenter les collections de façon différente, et surtout de pouvoir jouer un rôle qui est le rôle classique de bibliothèque municipale, hein, et de pouvoir donc ouvrir le patrimoine à un public beaucoup plus large. Et donc l'ambition de Numélio, c'est aussi donc de proposer des parcours thématiques, de proposer par des expositions virtuelles aussi, hein, un parcours plus aisé dans les collections pour celui qui n'est pas forcément un chercheur patenté et qui ne va pas forcément user du moteur de recherche, hein, là qui est le mode de recherche classique pour les universitaires ou les chercheurs spécialisés. Alors, l'idée aussi avec Numélio, hein, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui soit ouvert aussi aux malvoyants. Donc là, je ne pourrais pas le démontrer hein, aujourd'hui, mais le site a été pensé hein, par l'équipe de la bibliothèque pour les personnes malvoyantes et donc les personnes qui peuvent utiliser les logiciels de type JAWS hein, peuvent en principe aisément hein, circuler dans le site Numélio. Donc là, il y a vraiment un travail qui a été fait au sein de l'équipe, entre l'équipe web et puis une personne spécialisée dans ce domaine-là, la bibliothèque, hein, pour pouvoir proposer quelque chose de lisible aux malvoyants.
Je peux rebondir un petit peu. Alors, je ne vous montre pas ce qu'on appelle le code source de la page, mais effectivement, le code de toute la bibliothèque numérique est très bien structuré, ce qui fait que les logiciels de lecture ou même tout simplement les navigateurs peuvent facilement rentrer dans le code de la bibliothèque numérique et du coup lire convenablement, c'est-à-dire que les robots peuvent aussi venir lire très facilement la bibliothèque numérique de Lyon et aussi ça permet aussi alors déjà un accès pour les personnes handicapées mais aussi une indexation très facile pour les moteurs de recherche, chose qui n'est pas aussi non négligeable, donc double effet et donc ça permet aussi d'être très visible dans les résultats de moteurs de recherche. Et puis, je rebondis une dernière fois, il y a aussi le fait que le site est responsive design, c'est-à-dire que si on réduit ici la taille de la fenêtre, on va voir qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est que en fait, le site va s'adapter à la taille de la fenêtre, ce qui fait que là, si vous avez un smartphone sur vous, vous pouvez aller consulter Numélio sans souci, vous voyez que voilà, tout s'adapte, les contenus sont toujours présents, vous pouvez accéder à l'ensemble des ressources sans problème, quelle que soit la taille de l'écran, donc sur une tablette ou un smartphone. Donc ça, c'est aussi ça, l'accessibilité quelque part. C'est-à-dire que c'est, en plus, c'est d'être accessible pour tout le monde et sur tous les supports. Voilà.
Voilà. On peut rentrer peut-être dans les collections, justement, pour prendre un exemple. Peut-être dans les manuscrits, on va prendre les plus anciens. Donc, chacune des collections, hein, vous avez vu qu'il y avait différentes collections, hein, livres anciens, manuscrits, enluminures, estampes, etc., se présentent ensuite de la même façon. C'est-à-dire que vous avez trois colonnes qui se présentent. La colonne de gauche qui est plutôt dévolue à la recherche, hein, donc qui permet à la fois de rechercher directement dans la collection particulière, et puis ensuite, suivant les collections, des types de recherches hein, sont proposés, donc soit par date, soit par auteur, hein, suivant, soit par type hein, de document, suivant les collections. Au centre se trouve la collection elle-même, et on peut ensuite bien sûr entrer dans le manuscrit et le voir complètement. On peut prendre celui-là au hasard. Donc là, il faut peut-être passer les premières pages, parce que le manuscrit est numérisé entièrement, donc les premiers feuillets évidemment ne sont pas les plus intéressants. Donc là, avec une qualité de numérisation qui est bonne, hein, qui permet aux chercheurs de pouvoir vraiment travailler sur le détail de chacune des pages et de pouvoir faire des travaux vraiment très précis à distance. Alors actuellement, les 55 manuscrits plus mérovingiens et coronariens de la bibliothèque sont ainsi entièrement numérisés. Donc il y a des projets, bien sûr, pour compléter cette bibliothèque des manuscrits médiévaux. On va revenir à la page précédente. Voilà. Et donc sur la troisième colonne, on a une partie découverte, hein, qui donc s'adresse là, à un public qui n'a pas forcément envie ou pas forcément les connaissances nécessaires pour consulter un manuscrit en latin du 8e siècle. Mais donc il y a des propositions qui lui sont faites, hein, sur le côté de parcours guidés en lien avec la collection en question. Donc toutes les collections sont basées sur ce thème-là, hein, donc recherche, documents présentés au centre et bien sûr ensuite possibilité d'aller dans le contenu détaillé et à droite une option découverte. Donc les parcours thématiques maintenant, ou bien peut-être je vais quand même revenir quand même si sur les livres, on va peut-être revenir sur les collections rapidement, on va pas tout passer en revue, hein, mais donc à la fois donc des collections patrimoniales classiques, hein, des livres, des manuscrits, des enluminures, des estampes, mais aussi une partie importante, hein, qui est évidemment développée à Lyon, sur la presse lyonnaise. Hein, il y a aussi des opérations relativement anciennes et qui ont été menées en lien avec le ministère de la Culture et avec la RALD. Hein, et donc, il y a actuellement à peu près 250 titres, hein, de presse qui sont déjà numérisés, presse 19e et première moitié du 20e siècle. Nous allons bientôt verser deux grands titres pour la presse locale, qui sont donc le Journal de Lyon et le Salut Public. Dans le domaine local également, quand je dis local, c'est régional, photographe en Rhône-Alpes, hein, où on trouve déjà 30 000 photos qui regroupent à la fois à peu près 22 000 photos de fonds de photographes de la région, hein, depuis le début du XXe siècle à une date relativement récente, donc là aussi classée par collection, mais qui a aussi l'intérêt de proposer à peu près 8 000 photos qui ont été proposées par le public, en fait, tout simplement, hein, puisque le public est invité à donner, hein, ces photos sous forme numérique. Là, donc, il y a des contrats de cession qui sont signés systématiquement. Et donc, aujourd'hui, il y a environ 8000 photos qui proviennent de photographes professionnels ou amateurs sur cette base photographe en Rhône-Alpes. Dernier, peut-être... alors, non, aussi... insister aussi sur l'aspect photographie, hein, alors qui est une base qui actuellement contient 250 photos de photographes tout à fait contemporains qui ont cédé là leur droit à la bibliothèque et donc qui sont en accès, donc des photographes comme Jean Dieuzet par exemple, hein, qui ont cédé leur droit à la bibliothèque. C'est aussi là le lien, hein, étroit qui a pu se faire entre ces bibliothèques numériques et puis les liens qui existent depuis longtemps entre des photographes qui ont exposé la bibliothèque en général, hein, et qui, du coup, ont donné, hein, ces droits à la bibliothèque. Donc, ça, c'est quelque chose, une entreprise de longue haleine, hein, mais sur laquelle on continue, bien sûr, à travailler. Et puis, dernier point, quand même, les livres. Hein, là, oui, on peut ouvrir... hein, qui sont régulièrement ingérés dans Numélio. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 8000 ouvrages. On va le savoir, puisque le chiffre est donné, un peu moins de 8000 ouvrages en principe. Et donc ça, c'est le résultat de l'opération qui est menée depuis 4 ans maintenant, de numérisation des collections anciennes de la bibliothèque, hein, puisque vous savez, la ville de Lyon a lancé un appel d'offres en 2008 qui a été remporté par Google. Et donc, depuis début 2010, Google numérise les collections antérieures à 1920. Actuellement, 300 000 ouvrages ont déjà été numérisés. Nous visons les 400 000. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une petite partie simplement qui est en Numélio. Mais nous visons donc atteindre plusieurs dizaines de milliers pour la fin de l'année. Donc là, l'ambition, hein, par rapport à, justement, à, c'est un des intérêts de Numelio, parce qu'après tout, pourquoi mettre sur Numelio des documents qui sont déjà accessibles sur Google Books, hein, simplement, voilà, hein, c'est, on souhaite à la fois améliorer la recherche, parce qu'il est quelquefois difficile de trouver des documents sur Numelio, hein, et moi-même, qui sais pourtant que les documents sont sur Google, j'ai même quelquefois du mal à les trouver. Et ce n'est pas une critique vis-à-vis de Google, hein, parce qu'il y a beaucoup d'avantages sur Google. Et combien de chercheurs ici à Lyon viennent nous dire, mais nous ne venons plus vous voir à la bibliothèque parce qu'on trouve beaucoup de choses de votre bibliothèque sur Google. Donc cet aspect est tout à fait positif. Mais en même temps, il y a, quand on a un réservoir de 23 millions de documents, quelquefois des difficultés à retrouver le document que l'on cherche. Et Numelio, hein, cherchera justement, hein, à faciliter l'accès à ces documents et en plus à les mettre en perspective.
Oui, c'est ça, c'est qu'en plus de proposer d'autres outils de recherche, c'est aussi de proposer d'autres ressources en regard de ces documents-là, des rebonds, etc., avec cette fameuse colonne à droite qui permet de rebondir facilement vers d'autres collections.
On pourrait y revenir, hein, parce que ça, c'est partie aussi des évolutions, hein, souhaitées dans Numelio.
C'est de la numérisation en mode texte.
Alors, c'est de la numérisation en mode texte. Hein.
Et donc là, de l'interrogation.
Voilà, les fichiers là, peuvent être téléchargés en différents formats et notamment en format e-pub. Hein. Avec, bon, bien sûr, les limites, hein, que peut avoir un format texte pour un ouvrage du 16e ou du 17e siècle. On va peut-être revenir, hein, peut-être pour ne pas être trop long, mais revenir sur la page d'accueil. Donc, on souhaite évidemment que Numelio soit en lien direct avec les différentes activités de la bibliothèque. Donc, vous avez sur la page de droite, sur la partie droite, la partie actualité, hein, qui fait donc le lien avec différents éléments. Donc là, nous annonçons, alors le lien n'est pas encore créé là, mais la sortie de notre revue patrimoniale, Griff, hein, et il est dans les projets aussi de pouvoir mettre en ligne les anciens numéros de Griff, hein, qui bien sûr présentent un intérêt pour cet aspect patrimonial. Et puis un lien aussi avec les conférences, hein, en ligne, donc là plutôt les conférences patrimoniales. Donc c'est le cas ici, hein, par exemple, pour une conférence qui a lieu il y a quelques semaines autour d'un peintre lyonnais, Bernard Salomon, dont la bibliothèque conserve à la fois des dessins, mais surtout, hein, l'œuvre gravée dans les livres du XVIe. Et puis aussi le lien avec l'ordre de la découverte, hein, qui est une activité là, qui elle aussi a une vingtaine d'années maintenant, et qui, au fil des semaines, propose au public lyonnais de venir voir, hein, in situ, quelques documents précieux de la bibliothèque. Hein. Ça se passe tout simplement là, autour d'une table, en général, pour une quinzaine de personnes qui peuvent donc découvrir tel ou tel aspect des collections patrimoniales.
Avec des gants blancs.
Et avec ou sans gants blancs.
Avec ou sans gants blancs. Et du coup, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi une articulation, comme l'a souligné aussi Annie sur d'autres ressources, il y a une articulation aussi entre ce qui est proposé sur place et ce qui est proposé en ligne,
oui,
dans un sens ou dans l'autre.
Oui. L'idée finalement, hein, mais ça n'est pas encore ça n'est pas encore fait, c'est de faire de Numelio une seconde bibliothèque de Lyon. Hein. Alors c'est intéressant parce que dans le, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder Bibliothèque, il y a un petit article sur Numelio et le titre Numelio ou la 17e bibliothèque. Donc, je dirais, le titre est de la rédaction. Et on aurait préféré, finalement, que le titre soit plutôt Numelio ou la seconde bibliothèque municipale de Lyon. Hein, de dire, justement, que à terme, elle deviendrait une seconde bibliothèque. Et non pas la 17e bibliothèque du réseau. Hein, même si dans le texte, effectivement, j'emploie ce terme-là. Mais de façon un petit peu différente. Juste pour terminer, ouais, le lien avec différentes, justement, services de la bibliothèque, hein, le guichet du savoir, qui permet donc, hein, au public de poser des questions et d'avoir une réponse dans le plan de 12 heures. Les points d'actu, qui là aussi sont une manière, hein, de mettre en valeur tel ou tel aspect des collections et d'ouvrir, hein, sur les collections là, actuelles de la bibliothèque. Une petite vidéo aussi, hein, qui est renouvelée régulièrement, là, qui cette fois met l'accent sur un psautier mérovingien. Et puis sur la droite, hein, en bas, des dossiers thématiques qui sont proposés, et puis aussi donc là, l'expo, une exposition virtuelle là, qui fait lien avec l'exposition qui aujourd'hui se trouve dans le réseau de la bibliothèque de Lyon, hein, Récréation, qui n'est pas une exposition patrimoniale, hein, mais il y a quand même ce lien qui existe. Dans les projets, puis on verra peut-être, hein, Donc c'est bien sûr d'accroître hein, les collections, parce qu'aujourd'hui, je peux vous donner quelques chiffres, hein, mais les chiffres sont très trompeurs, je trouve, en matière de numérisation. Si je voulais, je pourrais vous dire qu'il y a 3 millions de documents, hein, mais en fait, sur ces 3 millions de documents, il y en a plus de 2 millions de pages qui font partie de ces 8 000 ouvrages, et puis il y a donc 12 000 enluminures, il y a 16 000 ouvrages, 20 000 pages de manuscrits médiévaux, et aujourd'hui à peu près 100 000 pages de presse. Bon, donc l'ambition, bien sûr, est d'aller plus loin, parce qu'une bibliothèque de ce type-là devient aussi vraiment intéressante lorsqu'on passe un seuil encore plus important. Hein. Mais l'enfant n'a que 6 mois, donc nous avons encore un petit peu de temps. Voilà, donc ça, c'est un des premiers projets. Le deuxième projet, c'est bien sûr hein, d'accroître, hein, on parlait justement de récréation, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en place, hein, mais d'améliorer l'aspect pédagogique. Il y a peu d'offres pédagogiques aujourd'hui, hein. Et donc là, on souhaiterait effectivement pouvoir proposer des vrais parcours pédagogiques en direction de, notamment du public jeunesse. Et puis aussi donc, le souhait de créer des liens avec d'autres bibliothèques numériques. Hein. Et là, donc il y a des projets aussi, bien sûr, avec la BNF, hein, de façon à ce que les deux bibliothèques, hein, Gallica et Numélio, puissent être reliées plus qu'elles ne sont aujourd'hui, hein, même si aujourd'hui, il y a déjà des documents de la BM de Lyon dans Gallica.
Merci Pierre. Alors, donc là, je vais vous lancer une série de questions. Je vais commencer par un premier aspect, c'est que bon, quand on parle de bibliothèque, souvent on parle des trois niveaux des bibliothèques numériques, qui sont le signalement des documents, donc chose que voilà, qui passe par le catalogue notamment, chose comme ça. Le deuxième, c'est l'accès aux documents. Notamment aux documents numériques, en direct ou en rebond, quand il s'agit de ressources numériques qui peuvent être proposées justement par des prestataires ou qui peuvent être hébergées ailleurs, justement, il pourrait y avoir un rebond vers Gallica ou des choses comme ça. Et le troisième volet d'une bibliothèque numérique, souvent, c'est justement la valorisation. C'est-à-dire, en plus de donner accès et de permettre de rechercher dans ces documents, c'est aussi de pouvoir les valoriser autrement, comme on l'a vu hein, sur les deux bibliothèques numériques de façon assez différente. Alors, on a pu le voir quand même un petit peu, surtout sur Numélio ici, c'est-à-dire la possibilité à chaque fois qu'on recherche un document, d'avoir des rebonds qui permettent d'avoir deux accès différents, on va dire un accès plutôt académique, pour le dire comme ça, et puis un accès plus grand public qui permet de découvrir d'autres ressources. Du côté de la bibliothèque numérique de Grenoble, comment se passe cette valorisation et cette articulation entre différentes ressources? C'est-à-dire, premièrement, par exemple, pour prendre un exemple qui fonctionne plutôt bien, comment sont signalées, par exemple, dans le cadre de CinéVOD, les ressources numériques? Et est-ce qu'il y a un lien avec d'autres ressources en parallèle, en plus des films et des vidéos qui sont proposées sur CinéVOD quand on fait une recherche documentaire?
Alors peut-être d'abord la façon dont CinéVOD est accessible, ben y a deux modes. Il y a l'interface CinéVOD à proprement parler, puisque nous avons conçu une interface web. Et puis il y a l'accès via le catalogue, puisque chaque film évidemment fait l'objet d'une notice et d'un lien en 856 qui permet de rebondir sur la fiche dans l'interface et ensuite d'avoir accès aux documents en ligne. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Je me suis longtemps posé des questions là-dessus. Est-ce que finalement, c'est une bonne chose en termes d'architecture, hein, d'accès à l'architecture du numérique? Est-ce que c'est une bonne chose de multiplier les interfaces? Alors, il faut faire en sorte que les interfaces soient le plus homogènes possible, mais avoir une interface par type de ressources, une interface web, me paraît extrêmement important. Dans le catalogue, les ressources sont noyées, hein, même si on fait en sorte que la recherche soit facilitée, notamment par des filtres. Par exemple, dans le catalogue de la bibliothèque municipale de Grenoble, on peut sélectionner par type doc les films numériques, les livres numériques, etc. Néanmoins, la valorisation de ces ressources via une interface web me paraît déterminante pour la découverte des contenus. C'est une façon de créer une vitrine, de mettre à plat les contenus. Donc je pense que les deux modes d'accès sont importants et c'est bien ce qu'on souhaite faire aussi pour le livre numérique, à la fois l'intégration dans le catalogue et l'interface web. Ensuite, sur l'accès à d'autres contenus via CinéVOD, Alors, il y a deux choses. Il y a l'éditorialisation qui est faite autour des ressources et ça qui est faite par la bibliothèque elle-même, hein, par l'équipe cinéma de la bibliothèque. Et puis, il y a l'accès éventuel à des contenus externes. Et ça, on y pense parce qu'évidemment, chaque film présent dans Ciné-VOD fait l'objet de critiques, etc., sur des sites comme Allociné, etc. Donc, mettre en place des connecteurs pour pouvoir enrichir l'interface avec des contenus extérieurs et fait partie des projets.
Voilà. Merci. Tu veux rajouter un mot, Pierre?
Non, parce que, enfin, si, pour les liens, justement, effectivement, je crois que c'est quelque chose d'important, et nous, on souhaite vraiment la développer, ça. Donc, il y a déjà des liens vers l'extérieur, hein, que ce soit vers Wikipédia, tout simplement, quelquefois, hein, ou bien des chercheurs nous ont déjà contactés en disant, ben voilà, sur tel thème que vous évoquez, il y a telle chose, et donc, après vérification, hein, le lien peut être fait vers tel ou tel site. Alors, il y a un travail qui juste débuté, hein, ça semble curieux, c'est le lien justement entre les collections Numélio et le catalogue. Alors, c'est déjà bien entamé, notamment dans la partie provenance, hein, là, qui est une des collections proposées dans Numélio, où là, donc, les différentes marques de possession, hein, sont proposées au lecteur. Et là, le lien est fait avec le catalogue, ce qui permet, hein, aux chercheurs de reconstituer la bibliothèque, ou en tout cas les livres de la bibliothèque contenus à la bibliothèque municipale de Lyon. Hein. Je prends un exemple tout simple, hein. Pierre Adamoli, grand collectionneur au XVIIIe siècle, on trouve sa marque de possession dans la basse provenance, le lien est fait avec le catalogue, et là donc on peut retrouver les quelques centaines d'ouvrages qui ont appartenu à Adamoli. Alors tous ne sont pas encore aujourd'hui numérisés, hein, mais à terme c'est bien ça l'idée, hein, c'est que un lecteur qui voudra consulter les ouvrages d'Adamoli pourra les reconstituer, hein, virtuellement la collection de Pierre Adamoli.
Alors, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais par rapport à l'articulation entre le catalogue et la bibliothèque numérique. De la même façon, il y a un service qui est assez emblématique du côté de la bibliothèque municipale de Lyon, qui est le guichet du savoir. Est-ce qu'il a été envisagé justement d'articuler les ressources du guichet du savoir avec certaines ressources numériques du type, voilà, on tombe sur justement un manuscrit, une question a été posée sur cet auteur-là ou sur cet ouvrage-là. Est-ce qu'il y aura une mise en relief entre les deux, un lien,
Le lien existe déjà.
D'accord.
Hein. Okay. Le lien existe déjà. C'est pour ça d'ailleurs que Jacques a été mis en première page. Hein. Mm-hmm. Très honnêtement, ça ne génère pas non plus un nombre de questions extraordinairement important. Ouais. Hein. C'est en plus difficile de savoir, hein, si le lien provient de Numélio. Hein. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Je crois que le plus important, c'est que cette possibilité existe. Ouais. Il y a d'autres moyens d'ailleurs, parce qu'en plus, on offre d'autres moyens. Hein, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais lorsqu'on arrive à un document précis, il y a effectivement la possibilité soit de poser une question au guichet du savoir, soit de contacter directement la bibliothèque. Hein. Et là, en fonction, je dirais, de la demande, le lecteur va, enfin le public, va utiliser l'une ou l'autre des possibilités.
Merci. Alors, je vais rebondir cette fois plutôt du côté de la bibliothèque municipale de Grenoble, sur la question de l'accès aux ressources, en fait, et de la difficulté, en fait. On en a déjà parlé, mais je voudrais que tu en reparles un petit peu, surtout autour du projet de PNB et de l'intérêt d'un tel projet. Lié avec la valorisation, le fait que, bon, notamment, vous étiez abonné, par exemple, à RTVOD, voilà, vous avez arrêté pour X ou Y raison, et la difficulté par rapport à RTVOD, outre le fait que la forme de l'abonnement posait quelques problèmes, il y avait aussi le souci de devoir s'identifier plusieurs fois. Il ne fallait pas rater ça. Du coup, la question, c'est que finalement, il y a quelques années, les ressources numériques, c'est encore le cas, étaient un petit peu, pour reprendre une expression de Sylvain Mercier, cachées derrière des forteresses. Et ce que vous êtes en train de fabriquer, ce que vous êtes en train de mettre en place du côté de la bibliothèque municipale de Grenoble, justement, c'est de permettre un accès beaucoup plus simplifié, de ne pas pouvoir activer un compte sur Arte VOD, un autre sur, je sais pas, Numilog, et de devoir comme ça naviguer et s'identifier 50 fois avant d'accéder à des ressources numériques. Du coup, là, l'intérêt, c'est que via Mon Grenoble, dans le cas de la bibliothèque numérique de Grenoble, une seule identification permet d'accéder à un certain nombre de ressources. Et peut-être que tu peux nous en parler, notamment via justement ces opérations de valorisation et le lien qu'il peut y avoir, je pense, le plus intéressant, vu que c'est un chantier qui est en cours, avec justement PNB, prêt numérique en bibliothèque, pour voir un petit peu comment ça s'articule.
Faciliter l'accès, évidemment, c'est déterminant, quoi. On peut toujours valoriser, communiquer autour du numérique, et faire venir d'autres, de nouveaux publics, hein, grâce à ça. Mais tant que l'accès ne sera pas simple, les usages ne se développeront pas, ou bien on aura une première démarche de curiosité et puis une incapacité à fidéliser le public. Donc, il faut, c'est déterminant, évidemment, cet aspect-là de la simplicité d'accès. Simplicité d'accès d'un côté, et puis pédagogie de l'autre, évidemment, hein, parce qu'on n'arrivera jamais à avoir les interfaces numériques rêvées qui, en un clic, permettent d'accéder au contenu, etc. Donc, bien entendu, il y aura toujours, il y a de la complexité inhérente au numérique, et donc, il y a un fort besoin de pédagogie, d'assistance utilisateur, mais bon, j'y reviendrai peut-être après. Alors, la simplification de l'accès, elle passe par deux choses, hein. Elle passe effectivement par l'identification commune, bon, ça c'est un premier point, et puis elle passe par les métadonnées, par la possibilité d'agréger les métadonnées en provenance de toutes les ressources numériques. Donc de ce point de vue-là, si on parle de PNB, sur le livre numérique, il y a un enjeu très fort, hein. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir récupérer les métadonnées en provenance des éditeurs. Donc, techniquement, ça demande d'acquérir nouvelles compétences, parce que les métadonnées éditeurs, c'est du format Onyx, qu'il faut pouvoir le mapper en Unimark, etc., pour l'intégrer au catalogue. Mais c'est évident que c'est une condition sine qua non pour que l'usage du numérique se banalise. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une intégration parfaite des métadonnées dans les catalogues et des métadonnées de qualité et riches, le numérique restera une pratique à part. Il faut que ça soit complètement intégré aux usages documentaires et que ça devienne aussi naturel d'emprunter un livre numérique ou de le consulter en ligne que d'emprunter un livre imprimé.
Mais il y a aussi le fait de pouvoir enrichir ces métadonnées, c'est-à-dire d'avoir une base qui proviendrait des éditeurs dans le cadre des livres numériques, pour ensuite pouvoir les enrichir du côté bibliothèque.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, il y a un enjeu en termes de mutualisation qui dépasse le cadre de la bibliothèque numérique de Grenoble. Hein, parce que je pense qu'il y a là quelque chose à imaginer, hein, au niveau national, hein, pour que les métadonnées qui soient récupérées des éditeurs puissent être enrichies collectivement par les bibliothèques municipales qui veulent se lancer dans le prêt et la consultation de livres numériques.
Alors, je rebondis un peu la même question que je posais à Pierre, mais du côté cette fois de Grenoble. Vous avez aussi un certain nombre d'outils. La Bibliothèque municipale de Lyon a le guichet du savoir. Vous avez mis en place un certain nombre de blogs, par exemple, dont Bémol, un blog autour de la musique. Et justement, comment se fait cette articulation entre des ressources numériques, alors en musique, qui ne sont pas encore là, mais qui arriveront sûrement bientôt, entre ces ressources numériques et justement une valorisation en ligne via une éditorialisation, du relais d'événements aussi sur du partenariat, etc. etc.
Il se trouve que les deux blogs professionnels qu'on a mis en place ne proposent pas de contenu intégral en consultation. C'est pas tout à fait par hasard d'ailleurs. Donc il y en a un qui est spécialisé en littérature jeunesse qui s'appelle Trop lire et puis Bémol pour la musique. Et c'est précisément il s'agit précisément de deux domaines sur lesquels actuellement nous n'avons pas de contenu numérique. Alors pourquoi ? Côté littérature jeunesse, parce que au moment où nous avons mis en place ce blog en 2008 ou 2009, 2009, il n'y avait pas grand-chose, très peu de choses en livre jeunesse numérique. Et puis côté musique, nous avons pris notre temps. Nous n'avons toujours pas de musique dans notre bibliothèque numérique. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne sommes pas parvenus à trouver d'offres satisfaisantes, soit en termes de contenu, soit en termes de modèle économique. Donc là, il y a des pistes aujourd'hui, des pistes intéressantes. Mais du coup, ce qui est assez intéressant par rapport à ça, c'est que finalement, on a commencé par de la production de contenu dans ces blogs. Donc Bémol, par exemple, on fait des critiques d'albums. Bien entendu, on fait le lien sur le catalogue pour que les personnes qui sont intéressées par ces critiques puissent emprunter les CD, bien entendu. Mais donc il y a une forte production de contenu, mais pas d'accès au contenu numérique. Donc en fait, sur ce thème-là de la musique, et il se passera certainement la même chose sur le livre jeunesse, on commence par la médiation numérique en quelque sorte, la production de contenu, et on va ajouter l'accès aux documents. Alors qu'en général, on fait l'inverse, on commence par mettre en ligne des contenus numériques et puis les éditorialiser après. Donc notre projet, effectivement, concernant la musique, typiquement, c'est de parvenir à trouver une solution pour mettre en ligne en format numérique tous les albums et tous les morceaux de musique dont on parle sur notre blog Bémol.
Je refais la démonstration en direct. Hein. Là, j'étais sur Bémol. Donc là, il y avait un article sur David Bowie, par exemple. Et voilà, à chaque fois, il y a une présentation de 5 albums. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur un des titres, on va rebondir sur le catalogue. Et qu'est-ce qu'on voit sur le catalogue? On voit justement la mention de Bémol qui parle justement de cet album-là. Et donc, si on clique sur le lien, on rebondira directement sur le billet de blog. Donc, il y a vraiment une interconnexion entre les deux. Ouais. Ah ouais, tout à fait. On va aller un petit peu plus loin, peut-être pour aussi libérer les personnes qui voudraient aller écouter Nicolas Georges dans pas très longtemps. Juste pour vous dire que de savoir un petit peu comment ça s'organise aussi en interne, c'est-à-dire que voilà, depuis maintenant de nombreuses années, il y a de plus en plus d'opérations de valorisation en ligne du type blog ou justement service en ligne, questions-réponses, etc. De savoir d'une part, bon, je sais qu'il y a du temps qui est attribué vraiment spécifiquement à ces missions-là, à la fois à Grenoble et à la fois à Lyon, mais de savoir quand même comment se passe l'organisation. Et comment surtout se passe une gestion beaucoup plus globale de toutes ces opérations de valorisation en ligne, en lien avec les bibliothèques numériques. Je ne sais pas si Pierre, tu peux nous en toucher deux mots.
Alors, pour ce qui touche du numérique et du numérique en particulier, l'essentiel est fait en interne, effectivement. Hein. Le site a été conçu et suivi et amélioré par l'équipe de la bibliothèque. Hein. Donc, avec les bons côtés, hein, qui sont très nombreux, il peut peut-être certains inconvénients, mais ça permet du coup d'avoir une bonne réactivité, hein, c'est quelque chose de positif. Alors, il y a aussi un autre aspect, je crois que c'est intéressant, parce que les deux parcours de Lyon et Grenoble ne sont pas les mêmes, hein, vous le voyez bien, et en même temps, nous tendons vers le même but. Hein. Là, nous n'avons pas le temps, sans doute, de voir en détail, mais se pose du coup la question de l'articulation entre Numélio, par exemple, et notre site web. Hein. Aujourd'hui, c'est relativement simple. Hein, il y a juste Numélio est annoncé sur la page web de la bibliothèque. Mais à côté, toutes les autres ressources numériques qui existent aussi. Hein, alors, moins nombreuses dans certains domaines qu'à Grenoble. Hein, il n'y a probablement pas de proposition pour la VED, par exemple. Hein, mais il y a une très forte proposition qui n'est finalement pas très visible. Hein. Et donc, je pense que ça, c'est un des vrais enjeux hein, pour notre public. Par exemple, aujourd'hui, l'ABM propose Europress, Kiosk, et sur place, mais aussi aux abonnés à distance. Et quand on voit la richesse de cette offre numérique, elle est, par certains côtés, sous-exploitée. Hein, parce que, peut-être tout simplement, elle n'est pas encore très visible sur le site de la bibliothèque et qu'il faut aller, quelquefois, au deuxième, troisième écran hein, avant de... Donc là, effectivement, il y a une réflexion globale hein, sur l'évolution. Et c'est intéressant aussi de voir, je pense, que ce projet de bibliothèque numérique, il entre dans le cadre, nous, notre projet d'établissement, hein, qui est en cours à la Bibliothèque de Lyon, qui s'axe sur trois grandes parties. Hein. La première, c'est orienté public. C'est pas très original, mais c'est un rappel, je dirais, nécessaire. Le deuxième, c'est bibliothèque lieu de vie. Donc ça s'adapte moins au numérique. Mais le troisième, c'est un modèle lyonnais. Hein. Je dis pas, c'est pas le modèle lyonnais, mais c'est un modèle lyonnais. Justement, qui essaie de s'appuyer sur les forces de la bibliothèque, hein, qui sont justement hein, à la fois des collections patrimoniales anciennes, un réseau qui est fort, hein, et puis une diversité hein, dans les actions hein, qui justement doivent transparaître. Alors, aujourd'hui, la difficulté, en fait, c'est que notre site web est un petit peu vieux, hein, il a il avait été remis de façon transitoire il y a une dizaine d'années, presque, je crois. Donc lui aussi, hein, devrait être remis à neuf et renouvelé complètement en 2014. Et là, je crois qu'effectivement, il y a un vrai enjeu pour savoir comment se positionne l'offre numérique.
Alors, peut-être juste parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais ce qui est intéressant aussi à la bibliothèque de Lyon, c'est qu'il y a une équipe web. C'est-à-dire que voilà, il y a quelqu'un qui va gérer les projets, il y a quelqu'un qui va s'occuper notamment du web design, il y a quelqu'un qui va programmer aussi un petit peu. Et ça, c'est intéressant de voir que ça a été intégré à l'intérieur de la bibliothèque.
Oui. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui presque officiellement une vraie équipe de la bibliothèque numérique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Hein. Le projet, je dirais, s'est mené comme ça de façon presque, je dirais, naturelle, en prenant des gens un peu à gauche et à droite dans les différents départements, les différents services. Bon, là, il y a un nouveau organigramme qui est en train de se mettre en place à la bibliothèque. Il y a aujourd'hui officiellement un service de la bibliothèque numérique, mais qu'aujourd'hui est encore pas non plus très très nombreux, qui en bonne partie aussi hein, s'attache à l'opération très matérielle de numérisation des ouvrages anciens, hein, puisque si Google numérise, il y a un travail considérable qui est fait et en amont et en aval.
Que ce soit sur la préparation,
le choix des documents,
l'intégration des documents numériques aussi, parce que voilà, 300 000 ouvrages, c'est voilà. Évident à intégrer.
Et l'équipe web, il y a effectivement une équipe web, hein, mais qui est effectivement une équipe web, qui n'est pas une équipe Numélio. Et cette équipe web, donc, constituée de 1, 2, 3, 4, 5 personnes et demie. Bon, oui, c'est ça. Non, 4 personnes et demie. Ne travaille pas que pour Numélio, justement, travaille pour l'ensemble hein, des ressources numériques de la bibliothèque.
Peut-être que je disais ouais, un peu la façon dont ça bien, s'organise ouais. À Grenoble. Ouais.
Alors, aussi, à la fois du côté organisation, mais aussi du côté création de contenu. Ouais.
Sur la valorisation sur le site, bon, le site web, il faut vraiment le penser finement. Et le numérique, il faut qu'il ait une visibilité, évidemment. C'est sûr que, vu l'investissement en plus financier que ça représente, il y a un enjeu là, le fait que ça soit immédiatement visible dès la page d'accueil, etc. Bon, ça a été un choix fort pour nous. On a développé un visuel aussi, d'ailleurs. Voilà, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que ça soit présent, que ça infuse dans le site. Par exemple, les ressources numériques, on n'en parle pas que dans cette rubrique bibliothèque numérique. On a mis en ligne, il n'y a pas très longtemps, une ressource en musique, vidéo musicale, qui est Medici. On en a parlé sur le blog Bémol. Tout ce qui est nouveauté, nouveau contenu en numérique, on en parle sur la page Facebook. On a une rubrique consacrée à nos abonnements de presse où on valorise tous les titres d'abonnement parce que c'est dans le catalogue bien entendu, mais c'est perdu dans le catalogue. En 2013, là, on va faire le boulot d'ajouter les liens vers nos deux ressources de presse à chaque fois que le titre en question s'y trouve, donc disponible sur Pressens, dans le cas échéant, ou sur le kiosque, etc. Donc voilà, il faut que la présence du numérique elle soit perceptible quasiment dans toutes les rubriques du site, j'allais dire, en plus du fait de lui consacrer une rubrique. Ça, c'est pour l'architecture du site web. Après, sur l'organisation et puis peut-être aussi l'histoire des compétences et des qui intervient sur quoi, etc. Alors, à Grenoble, on n'a pas une équipe bibliothèque numérique à proprement parler. Par contre, on a un service informatique qui est en fait composé principalement de bibliothécaires avec une bonne culture informatique, plus un technicien informatique, donc qui s'occupe de tous les projets informatiques d'un point de vue technique, relations avec les prestataires, etc. Donc moi, je suis en charge du projet bibliothèque numérique, donc je viens renforcer cette équipe-là, mais pour la gestion de projet. Donc on a un pool de personnes, également les responsables des blogs, hein, qui ont des compétences techniques assez avérées, bien qu'étant bibliothécaires de métier. C'est une chose. Et d'autre part, on a des acquéreurs qui, de plus en plus, selon leurs compétences métiers, interviennent sur tel ou tel aspect. Produisent des critiques dans Bémol, les discothécaires, font de l'éditorialisation sur Ciné-VOD, les acquéreurs de DVD, et on va faire la même chose pour l'interface de livres numériques. Donc, il y a deux aspects, quoi. Il y a à la fois des compétences techniques à acquérir au sein des équipes. Tout le monde ne peut pas avoir le même niveau, donc forcément, il y a toujours une équipe pilote. Voilà. Mais évidemment, cette culture informatique, elle doit progressivement se diffuser par des formations dans l'ensemble des équipes. Mais de l'autre côté, la valorisation des compétences disciplinaires, enfin des compétences par secteur d'acquisition, la valorisation de ces compétences au sein des, sur les interfaces de la bibliothèque numérique.
Oui, j'ajoute effectivement que là, je parlais du service de la bibliothèque numérique et du service web, mais qu'il y a également beaucoup d'autres personnes, notamment dans le département de la ville de Lapardieu, sur le fonds ancien, la documentation régionale, le département art spécialement, qui alimentent aussi la bibliothèque numérique. Et c'est notamment ces personnes-là qui constituent les dossiers thématiques. Donc il y a aussi là un travail commun qui est fait. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une vraie difficulté, je pense, et c'est là qu'il faut qu'on a des difficultés, ce profil un peu nouveau de bibliothécaire, webmestre en même temps. Et alors, même si les relations sont très bonnes entre l'équipe web et le reste, on s'aperçoit quelquefois qu'il y a des difficultés à se comprendre, tout simplement, parce que voilà, le langage n'est pas forcément le même, et qu'on est encore dans cette phase-là, transitoire à mon avis, mais qui existe, et qui nécessite sans doute une formation un peu différente des bibliothécaires.
Tout à fait. Et puis, donc, voilà, ouais, deux niveaux de formation, c'est évident, pour une équipe pilote d'un côté, l'augmentation progressive, la mise à niveau progressive de l'ensemble des équipes, mise à niveau qui est d'autant plus importante que, évidemment, c'est l'ensemble des collègues qui est en relation avec le public et à qui le public pose des questions par rapport à des expériences qu'ils ont pu avoir sur l'utilisation des ressources numériques à distance ou bien sur place, sur l'utilisation des matériels, etc. Donc ça, c'est... Bon, voilà, cette question de la formation, elle, vous le savez tous, mais elle est capitale. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une nouvelle fonction qui est en train de se développer, qui est celle de l'assistance utilisateur à distance.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
SAV, en quelque sorte. Quoi.
Pour rebondir sur la formation aussi des utilisateurs.
Ouais, où de plus en plus, on est amené à résoudre des problèmes par téléphone, par mail, etc. Ça, forcément, à partir du moment où on développe le numérique à distance, il faut être prêt à assumer ce service.
Il doit être rapide et réactif.
C'est souvent effectivement les réactions du public, puisqu'on invite le public à réagir ou à compléter même des métadonnées qui seraient incomplètes ou même fausses. Mais c'est vrai que beaucoup de messages sont plutôt « mais comment est-ce que je fais pour... » Et on s'aperçoit effectivement qu'on n'est jamais assez clair en réalité. Il y a des problèmes techniques qui peuvent exister aussi, c'est vrai aussi.
Et puis l'interruption de service, elle est visible immédiatement, donc on le voit, dès qu'on a un problème, on reçoit immédiatement des mails et il faut être en mesure d'y répondre vite et de faire un suivi des demandes des utilisateurs.
Alors, peut-être pour finir sur une dernière question, ce serait, même si vous en avez tous les deux parlé un petit peu tout à l'heure, ce serait l'articulation entre ce qui se passe en ligne, à la fois les bibliothèques numériques directement et puis sur les outils de valorisation que sont les blogs, les services de questions-réponses, et ce qui se passe sur place. Les différentes choses que vous pouvez organiser, des conférences, des débats, ou aussi justement des formations auprès des utilisateurs. Et puis certaines opérations, alors comme c'est le cas à Grenoble, d'expérimentation autour de tablettes ou de liseuses pour aussi présenter des ressources numériques différemment avec des vrais dispositifs de lecture numérique, par exemple.
Oui, on a mis en place au tout début d'année une quarantaine de tablettes et une vingtaine de liseuses avec plusieurs objectifs, à la fois de valoriser les contenus de la bibliothèque numérique accessible à distance, donner accès à d'autres contenus qui sont intéressants aussi pour les bibliothèques, et j'en parlais tout à l'heure, des applis tablettes notamment. Et puis, le côté expérimental, amener les gens à manipuler, des personnes qui n'ont jamais eu, il y en a encore beaucoup, qui n'ont jamais eu l'occasion de manipuler ces outils, et qui s'interrogent sur éventuellement l'opportunité pour eux d'en acquérir. Donc ça, c'est, ça permet effectivement... Il y a un travail pédagogique autour de ça, et c'est aussi une façon de rendre visible le numérique dans les murs, d'être de plus en plus assimilé comme des lieux de ressources pour le numérique. Et autour de ça, bien entendu, on met en place des ateliers d'initiation à l'utilisation de ces matériels, de découverte des contenus qui sont dedans. On a récemment, par exemple, invité aussi une conférencière autour des applis jeunesse. Il y a une forte demande des parents autour de ça. Donc, avec deux volets, une présentation un petit peu générale, un panorama de l'édition, entre guillemets, en appli jeunesse aujourd'hui pour les parents. Et puis un volet formation. On en a profité, du coup, pour faire un volet de formation interne à destination des collègues.
Peut-être tu peux.
Oui,
Ouais,
je pense que les choses effectivement, vont dans les deux sens. Hein, parce qu'un des projets là, pour Numélio, c'est justement un petit peu de capitaliser tout le travail qui est fait autour de la découverte. Hein, puisque là, régulièrement, les collègues hein, font un travail important hein, pour présenter des documents sur un thème donné. C'est quelque chose qui finalement reste éphémère. Au départ, c'était le but, hein, de toute façon. Mais là, l'idée, ce serait de pouvoir reprendre ces interventions, non pas en les filmant, hein, parce que ce serait sans doute un peu compliqué et pas forcément très un peu long, une heure de la découverte, hein, mais de reprendre l'essentiel et puis de l'illustrer hein, par des documents éventuellement intégralement représentés, hein, et donc de garder la mémoire hein, de ce qui a pu être fait en présentiel. Et de même, hein, on cherche aussi là, alors c'est un peu dans un domaine un peu différent, mais du coup, c'est aussi un moyen pour nous hein, de travailler en collaboration avec un monde important pour nous, qui est le monde universitaire. Et on voit qu'il y a une vraie demande aussi du côté universitaire, et à Lyon, on est quand même bien servi avec l'ENSIB, les trois universités lyonnaises et l'ENS. Hein. On a un vrai vivier là, de personnes qui sont désireuses, en fait, hein, de mettre à disposition d'un public plus large le résultat de leur recherche. Hein. Et donc, on a plusieurs projets, notamment avec l'ENS, hein, sur des projets assez variés, que ce soit la presse du 19e siècle sur les canuts, que ce soit sur Alexandre Dumas ou sur Joubert, enfin il y a des projets assez variés qui nous permettraient donc de construire des dossiers genre, sérieusement faits, mais adressés à un public plus large.
Merci à tous les deux. Alors avant de laisser un peu de temps pour des questions, juste pour vous dire que la Bibliothèque municipale de Lyon a un stand. Il est là, juste derrière, au fond. Donc, vous pourrez aller les voir si vous avez des questions tout à l'heure. La Bibliothèque municipale de Grenoble n'en a pas, mais elle est partout. Il y a plusieurs collègues qui sont présents ici. Et puis la RAL d'Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation est juste derrière là, à la sortie. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à venir nous voir. Et c'est aussi l'un des seuls stands où il y a des livres. Alors, allez venir voir des livres, ouvrir des bibliothécaires, ça peut être assez intéressant. Donc je ne sais pas s'il y a des questions dans le public sur ce qui a été dit, des réactions. N'hésitez pas surtout. Rien ? Attendez, bougez pas, il y a un micro qui arrive.
Bonjour, Nadia Allégri, bibliothèque de Valence. Vous avez parlé de animation autour des cafés lecture avec les tablettes.
Non, j'ai parlé de l'achat. C'est-à-dire que en 2013, donc début 2013, on a mis en place des tablettes et des liseuses pour l'utilisation sur place, en lecture sur place par nos usagers. Et on va en acheter d'autres parce qu'on s'est aperçu que l'utilisation de ces matériels sur place, elle est forcément limitée. Il y a un côté des premières découvertes. Bon, en revanche, là où on peut travailler pour en développer l'usage, c'est dans des cadres collectifs et notamment dans celui des clubs de lecture, c'est-à-dire précharger des liseuses avec les livres que lisent tous les membres du club, avec éventuellement en plus la possibilité de partager des annotations, etc. Ça, c'est un type d'usage extrêmement intéressant. On n'a pas du tout jamais eu pour projet de faire du prêt de liseuse, parce que dans un réseau avec 40 000 inscrits, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, je dirais, quoi. Il faudrait en acheter des centaines et des centaines pour commencer à répondre à la demande. Donc ça, ce n'était pas notre projet. Mais en revanche, on veut développer ce type d'usage de ces matériels nomades. Donc effectivement, club de lecture, en lien avec l'actualité aussi culturelle de la bibliothèque, par exemple la manifestation littéraire annuelle qu'on organise qui s'appelle le Printemps du Livre. Bien sûr, on achètera les titres, si on peut le faire avec les droits, des livres des auteurs invités au printemps, on l'a déjà fait d'ailleurs, hein, pour qu'ils circulent dans les clubs de lecture. Et puis il y a aussi un autre usage qui est intéressant, c'est dans le cadre du prêt à domicile pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes âgées, notamment des personnes handicapées. Donc là on va aussi mettre en place le prêt, mais dans ce cadre-là. Quoi.
Oula, plein de questions.
Claude Minier, médiathèque d'Orléans. Voilà, c'est lié à une question pratique par rapport à l'acquisition des applis ou livres numériques. Est-on obligé d'avoir une carte bleue? Enfin, comment est-ce
non,
que vous faites?
Non, il y a moyen de contourner ça en achetant des cartes iTunes, tout simplement. acheter des cartes à Tunes pour 50€, 100€, etc. Et puis, vous les utilisez d'un coup, par contre. Parce que si vous n'utilisez pas tout votre crédit, n'importe qui dans votre réseau de bibliothèque peut acheter des applis, puisque une carte est déclarée sur un appareil. Mais ça, c'est une solution simple qui marche.
Et ça, c'est sur pour Apple. Et pour oui. Android, malheureusement, il n'y a pas de système encore. Mais il y a une nouvelle là, qui a circulé la semaine dernière. Par exemple, la souris qui raconte va permettre l'acquisition d'applications sous Android pour des collectivités. Voilà, par exemple. C'est un exemple.
Et pour les liseuses, on est passé par Ipagine, vendeur de libraire numérique en ligne. Alors là, on est dans une espèce de flou juridique, très clairement. C'est-à-dire qu'on achète des livres numériques dont les DRM prévoient qu'ils puissent être copiés sur 5 appareils. Donc, on les copie sur 5 liseuses. Voilà. Donc, on utilise la limitation technique. Les éditeurs à qui on en parle nous disent « bah oui, faites comme ça ». Mais en réalité, c'est pas encadré juridiquement, cette pratique-là. Mais bon, c'est sur place. Enfin, c'est sur place pour l'instant, mais prochainement, ça sera au sein des clubs de lecture.
Oui, Anne Tricard, bibliothèque de Limoges. Je voulais poser une question aussi un peu triviale, mais sur l'offre ciné-VOD, pour savoir si les films, comment vous acquériez les films en streaming. Comment
on
ça
les
se
achète
passe
auprès d'un fournisseur qui est Adavision. Donc on les achète pour une durée déterminée de 5 ans, titre à titre. Et on a les fichiers. Donc, d'accord, on peut les héberger. Écoutez, ils sont là. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Alors, nous, on a développé une plateforme aussi pour une raison. C'est que quand on a commencé à acheter des films à Adavision, il n'y avait pas d'infrastructure technique proposée par le fournisseur, ce qui est le cas aujourd'hui. Ils ont une plateforme qui est faite un peu dans le même esprit que la nôtre, c'est-à-dire qui permet d'y charger également des films dont on aurait les droits.
Et qui permet aussi d'assurer une bande passante correcte, parce que pour la vidéo, c'est un petit peu l'enjeu, et ça a été l'un des gros investissements de la ville de Grenoble, qui a mis le paquet, parce qu'ils vont s'en servir aussi en termes de communication à la ville de Grenoble pour d'autres outils, pas uniquement pour la bibliothèque. Mais du coup, c'est aussi un des gros enjeux, c'est que pour la vidéo, il faut une grosse bande passante, donc si vous le mettez juste sur un serveur chez vous, voilà, ça va pas marcher, parce que voilà, la vidéo va mettre trop de temps à charger, et s'il y a trop de monde, ça va planter, quoi.
On l'a mis en place en avril 2011.
Ouais.
Oui.
Bonjour, Céline Vidal, médiathèque départementale Pierre-Vive dans l'Hérault. J'avais une question surtout au niveau des équipes. Vous parliez d'une équipe dédiée sur le numérique. On évoque évidemment la formation. Et c'est indispensable. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est depuis longtemps? Par groupe? Est-ce qu'on ne sent pas une fracture numérique au sein des équipes? Et est-ce que, par ailleurs, les tablettes, les outils sont prêtés aux collègues? Parce qu'on se rend compte que, enfin, moi, dans ma structure, en tout cas, il y a beaucoup de temps qui est passé. C'est du temps autre que sur le temps de travail. Et qu'on n'en sait jamais assez au niveau technique, au niveau des contenus. Et tout ce temps-là et tous ces profils-là très différents et le rapport très numérique que les équipes ont par rapport... c'est l'objet d'une prochaine journée d'études. Je fais de la promo de la BF Languedoc-Roussillon prochainement sur l'appropriation du numérique dans les équipes.
Ouais, voilà. Mais bien sûr, c'est une question très importante. On ne va pas épuiser là maintenant, mais... Moi, je tiens à ce que les équipes soient vraiment une connaissance très fine des contenus qu'on propose. Après, on essaye de les rassurer sur les compétences techniques. Ce n'est pas forcément dramatique s'ils n'en savent pas plus sur le plan technique que les usagers. Ils doivent être capables de faire de l'aide de base, les fonctionnalités de base de la tablette, par exemple. Il faut les connaître, bien sûr, comment revenir au menu, comment supprimer une appli, comment... Bon. Mais ça, ces choses-là, ça vient assez vite. Alors, comment c'est venu? On a créé un groupe de travail avec plusieurs personnes par équipement, par bibliothèque du réseau, qui s'est réuni très régulièrement. On a fait des ateliers. Voilà. Et puis ensuite, la formation s'est diffusée de cette manière-là dans l'ensemble des équipes. Mais c'est très lourd.
Ça prend du temps, surtout.
Ah ouais, ça prend énormément de temps. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas d'emblée installé toutes les, toutes les tablettes dans les bibliothèques, parce que là aussi, il y avait un travail en amont de chargement des contenus, etc., qui était très long. Hein. Mais ce qu'on a fait très, très vite, hein, dès qu'on a eu les premières tablettes, c'est qu'on en a mis deux dans chaque bibliothèque pour que les collègues puissent effectivement les emmener chez eux, les tester sur place aussi. Alors après, sur le temps personnel, le temps professionnel... Je dirais que c'est un peu la même question pour les documents, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, ça c'est selon chacun, hein, mais bien entendu, très souvent, ça, les collègues s'approprient ces supports-là en les emmenant à la maison, de même qu'ils lisent pour leur travail chez eux. Enfin, bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on constate, parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement non plus, hein, évidemment. C'est très gourmand en temps. Mais en même temps, il y a une certaine, j'allais dire, fierté, entre guillemets, de la part des collègues, parce que beaucoup ne connaissaient pas ces supports, hein, et d'être capable de les utiliser, d'être à l'aise avec leur manipulation. Ça se passe assez bien, mais une chose est sûre, c'est que c'est chronophage, quoi. C'est évident. Ouais.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais, derrière vous. Merci.
Je voulais savoir si vous aviez des jeux vidéo et votre position sur le sujet.
Ouais, on a des jeux vidéo. On a des jeux vidéo pour console dans une bibliothèque du réseau qui s'est un peu spécialisée. On avait très envie de pouvoir en prêter. Évidemment, on a renoncé. On espérait que qu'un cadre juridique allait se constituer, et puis c'est pas le cas. Donc, on fait par contre beaucoup d'animations sur place autour du jeu vidéo. Il y a un club jeu vidéo qui réunit des passionnés qui échangent sur les jeux qu'ils utilisent, etc. Il y a des ateliers, des séances de jeux intergénérationnelles qui sont organisées.
Il y a
des conférences sur le jeu vidéo aussi, pour débattre avec les adultes, hein, qui sont évidemment toujours inquiets par rapport à l'usage que les enfants et les ados en font. On expérimente plein de choses en ce moment. Là, prochainement, on va faire une nuit de jeux en réseau. Enfin, voilà.
Peut-être par rapport aux jeux vidéo, pour rebondir et faire un peu de promo pour le réseau Carel. Si je ne m'abuse pas, il y avait l'AG du réseau Carel avant-hier, c'était mercredi, et du coup je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a un groupe qui a été constitué autour du jeu vidéo justement, ouais, en fait, sur la question de l'acquisition de ces ressources-là.
Ouais, voilà. Il y a un groupe qui va être constitué effectivement, parce que donc au sein de Carel, qui est une nouvelle association, hein, vous savez, qui a été créée il y a un an, il y a un groupe de travail livre numérique qui a été mis en place, hein, qui fait de la veille, qui peut être amené aussi à négocier avec des éditeurs, etc., à rencontrer tous les acteurs, éditeurs et autres. On va progressivement créer, alors je dis on parce que je fais partie du bureau de cette association, progressivement créer des groupes thématiques dans tous les domaines. Et il y en a un sur le jeu vidéo, là, qui prochainement va être lancé. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association. Hein. Il y a un site, réseaucarel.org, si vous avez envie de consacrer un petit peu de temps à l'échange sur ces questions.
Et surtout, vous boostez votre collectivité pour qu'elle adhère.
Absolument.
À ce Carel.
Voilà. 50 euros l'adhésion, ça c'est pas cher.
Merci Annie. Qui a une dernière question avant qu'on libère la salle ? Non. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tout. À Pierre et Annie pour votre participation. Merci pour votre attention et votre présence de si bon matin, et bonne fin de congrès à toutes et à tous. Pensez à passer sur le stand de la Bibliothèque municipale de Lyon et sur le stand de la RALD qui est juste derrière vous. Voilà. Merci.